Salut les amis.
Salut Charlie.
Enfin,
quoi,
enfin, on peut recommencer. Moi, j'étais en manque.
Ah, c'est pas là.
Ah, ouais, carrément. Moi, j'étais là, je voyais Fillon, puis je voyais Macron.
Ah bon, il y a des chaînes françaises à Acapulco.
Ah, mais j'étais pas à Acapulco.
Ah, bah c'est pour ça qu'on s'est pas croisés.
Bah, alors vous, évidemment, vous étiez heureux en vacances.
Bah, pas du tout.
Non.
Avant, t'as lu des choses.
Bah, carrément. Et je peux dire que moi aussi, j'ai trépigné.
Ah, quand même. Donc, t'as suivi l'affaire Théo.
Ouais.
T'as suivi l'union ratée de la gauche.
Ouais, aussi, mais bon.
Mais bon quoi.
Mais surtout à Bergerac.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ivre virgule, il agresse le maire avec une carotte.
Oh là là,
ça tu peux pas comprendre. Mais moi je vois passer une brève comme ça et j'en veux au calendrier scolaire.
Mais non, mais il y en aura d'autres.
Mais il y en a eu d'autres.
Ah bon?
Et oui, à Chatte, en Isère, il y a eu 70 000 poules brûlées.
Oh la vache, le nombre de jeux de mots avec poule.
Avec Chatte aussi.
Ah ouais, Chatte,
ça se promet super. 17h17, génial, une semaine de brève.
Ben voilà.
Bon bah on s'y met alors.
Ouais, en fait, il y a que toi Guillaume que t'es pas triste en vacances.
Ah bah non, c'est faux, j'ai raté plein d'événements.
Ah bon?
Bah il y a le congrès des racistes daltoniens.
Ah oui,
là je peux dire que j'avais des questions à leur poser.
Ah tu m'étonnes.
Ouais, il y avait le championnat du monde de choucroute à
vous êtes tous remontés, là, hop, on y va.
J'ai déjà trouvé des sujets.
Oh là, on va prendre un petit café d'abord.
Oui, Alex a raison, faudrait pas que la précipitation soit mauvaise conseillère.
Voilà. Ah non, mais attendez, mais moi j'ai envie de foncer, tout droit, lever la tête jusqu'à la présidentielle le 7 mai et voir apparaître un visage.
Et profites-en bien parce que le 8 mai, on sera peut-être tous les deux à Acapulco.
Ah bah comme ça, je vous croiserai.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui commence à avoir un peu de mal à être plus drôle que la campagne présidentielle, mais on va y arriver. Et voici les trois informations qu'on va traiter avec plus ou moins de sérieux. Les Français sont descendus dans la rue ce week-end pour réclamer justice pour Théo. Et bien au-delà de ça, ils veulent venir à bout des violences policières et des préjugés raciaux.
Ouais, par contre tu me mets un K à matraque, s'il te plaît.
Où est passée l'espérance? Avant, elle se trouvait à gauche, mais on ne la trouve pas à droite. Et quand elle n'est plus politique, l'espérance devient religieuse. Et c'est là que ça devient le bordel. Mais alors, on fait quoi?
Alors, je te dis qu'il faut garder l'espoir, ma poule.
Et à l'ère de la fausse information et des fake news, nous sommes inquiets. Inquiets pour le Gorafi. Il devient de plus en plus difficile de dire ce qui est Gorafi et ce qui a vraiment été dit.
Le Premier ministre de la Suède s'est rendu à Washington aujourd'hui et mes jolis petits tétons ont fait le tour de France.
Je t'en prie, Evan, ne lis que le prompteur, il est parfait.
Et je suis accompagnée de celui qui vérifie toujours les sources de ses brèves.
Ça, je peux vous dire que oui.
Il vérifie si les gens sont ivres avant la virgule. C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Nounaker, gros retour avec une belle équipe à 17h20, Miles Davis a dit « La véritable musique, c'est le silence ». Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cette phrase, monsieur Chewbacca?
Bonjour Alex.
Bonjour. De quoi on va parler?
Aujourd'hui, on va parler d'un livre « Hip-Hop Family Tree » sur les origines du hip-hop aux États-Unis.
Bien sûr, j'ai déjà lu. 17h30, il a foutu la paix à la France pendant une semaine. J'espère que vous en avez bien profité parce qu'il est de retour.
Oui.
Et donc, deux fois plus de questions à poser, c'est Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi, je suis allé distribuer des tracts pour François Fillon hier matin avec des militants et on a parlé des valeurs que défend François Fillon.
Le rétablissement des valeurs du travail, du mérite notamment, le redressement de nos comptes publics.
Voilà, travail, redressement des comptes publics. Donc je pense que le projet de Fillon, c'est de divorcer en fait, hein, tout simplement.
Et 17h40, le poète de cette émission, celui qui se laisse guider par sa plume, ce qui explique en partie les sorties de route. Bonjour Hippolyte Girardot.
Mais bonjour Alex, bonjour à tous. En fait, comme le terrain de la blague est très occupé avec Trump qui fume de l'herbe introuvable, Mélenchon à qui joue au covoiturage pour aller au cimetière et Fillon qui joue au con. Je me suis dit qu'il fallait faire un truc un peu sérieux, donc je fais une chronique sur le tontonisme.
Le tontonisme, évidemment.
Et voici ceux qui ont tout annulé pour nous et on les en remercie. Vous vous rencontrez à Paris lors d'un concert en 94 et vous fondez le groupe La Rumeur en 95. Vous sortez votre premier disque en 97, mais le premier album L'Ombre sur la mesure sort en 2002. L'année où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et vous attaque pour diffamation envers la police. Il faut dire que le type est assez susceptible aussi. Le bras de fer judiciaire durera 8 ans et vous le remportez. Vous sortez 3 autres albums et un téléfilm aussi pour Canal+, intitulé De l'encre. Demain sortira votre premier long métrage de cinéma intitulé Les derniers parisiens. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
La rumeur.
Yes.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout.
Bonjour Amé et Ekwe.
Bonjour Charlie. Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Voilà donc ce premier long métrage qui sort en salle mercredi, qui s'appelle donc Les derniers Parisiens, avec notamment Reda Kateb, Mélanie Laurent, Slimane Dazy et
un personnage extraordinaire qui tient un rôle magnifique et qui l'interprète magnifiquement bien, c'est Pigalle.
Oui, parce que c'est ça le personnage principal. Est-ce que c'est ce quartier que vous vouliez mettre à l'écran et donc vous y avez mis une histoire, ou est-ce que c'est l'histoire qui vous a dit bah, on va plutôt le faire dans ce quartier-là parce que c'est là que ça va se passer?
Les deux, voilà. Mmh. C'est un film à la fois sur Pigalle avec des gens qu'on filme et des gens qu'on filme à Pigalle.
Donc, oui, parce que à part les acteurs principaux, tout le reste, c'est la vie comme elle est là-bas.
C'est nos potes, ouais.
Et comment ça se passe un tournage quand on tourne entre potes?
Bah, y a à la fois quelque part le travail qu'on fait avec les comédiens plus confirmés. Mm-hmm. C'est un peu comme dans une équipe de foot, hein. Y en a qui passent le ballon, il y en a qui organisent le jeu, on va dire. C'est un peu le rôle de Reda Kateb, de Mélanie et de Slimane Dazi. Et puis après, concernant les ce qu'on appelle les acteurs plus amateurs, moins confirmés, c'est nos amis. Les uns sont chauffeurs routiers, travaillent à la poste, d'autres sont au chômage. Bon voilà, c'est partir de leur naturel, mais avoir un niveau d'exigence quand même qui consiste à pas les laisser en roue libre et pas à l'impro. Voilà, des textes ça s'apprend. Voilà, il y a des fondamentaux, il y a des murs porteurs. Et puis après. Avec l'écume de vagues, on peut avoir cette espèce de supplément de charme qui donne de la consistance, quoi.
Ça veut dire qu'il y a aussi des personnages qui vous ont amené des choses dans l'improvisation un peu presque à la dernière minute, des compléments pendant le tournage, jamais.
Alors on a pris le quartier tel qu'il était. On s'est interdit les autorisations de tournage, les rues bloquées, les figurants qui passent dans le champ pour
ça,
faire
c'est
comme
que
des
vous,
régions.
Vous avez vos entrées dans le quartier.
Exactement, c'est un quartier qu'on connaît, qu'on pratique depuis 25 ans. On y a usé nos guêtres, nos semelles, on y a une foule d'anecdotes et de souvenirs et un vécu. La rumeur est née là-bas, l'esthétique de la rumeur, on a tout puisé à Pigalle. Et quand il s'agit de tourner ce film, bah on avait évidemment nos repères, on a préparé le terrain en amont, tous les décors sont naturels, on a pris les vrais bars, les vraies boutiques, les vrais sex shops dans lesquels l'action se déroule. Il y a aussi, il en reste. Il y a pas que des Starbucks et des Naturalia à Pigalle, il y a encore quelques sex shops, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, c'était à ce prix-là qu'on pouvait, on voulait donner un caractère immersif à cette histoire, à ce film, et entrer dans le quartier à hauteur d'homme en suivant l'urgence des personnages.
Outre ce côté documentaire, il y a une vraie histoire. C'est l'histoire de deux frères.
Absolument. C'est ça, c'est deux frères qui ont des projets assez différents pour le bar.
Pour le moins, oui.
Il y a le grand frère finalement cherche une clientèle, on va dire. Plus apaisée, un peu moins turbulente.
Qui se boboïse. Alors, c'est un peu ça qui les perturbe les deux, non?
On va dire que le grand frère, lui, qui a une cinquantaine d'années, a réussi vraiment le pari de l'intégration, voilà. Mmh. Mais il revient de plus loin, voilà, de cette génération qui a été ravagée par la CAM, notamment dans les années fin des années 70, début des années 80. Donc, il y a un regard très critique, on va dire, voire très méprisant par rapport à la génération de son petit frère, qui lui, pour ambition de briller, et de faire briller sa Rolex, et puis d'être Monsieur Pigalle.
Mais qui sort de prison, qui a quelque chose à prouver, et qui estime que dans ce monde qu'est Pigalle, il peut se refaire.
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu montrer des gens pour ce qu'ils font, et pas forcément pour ce qu'ils sont, et surtout, on a voulu montrer des gens qui font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Mmh. Voilà, ce qu'ils peuvent pour se maintenir, pour s'acheter une dignité, pour sortir la tête de l'eau, pour être dans des, on va dire, dans des parcours, en tout cas, d'émancipation sociale à peu près normale. Voilà, tout ça est très précaire dans tout. C'est des équilibres qui sont extrêmement fragiles. C'est des gens qui marchent sur un fil, et c'est ça qu'on a trouvé intéressant. Mmh. Et c'est un peu notre histoire, et c'est aussi l'histoire quelque part des gens qu'on filme et de ce quartier aussi plus largement.
Ça s'appelle Les Derniers Parisiens, ça sort en salle mercredi. C'est Eko et Amé du groupe La Rumeur. Les acteurs, c'est Reda Kateb, Mélanie Laurent ou Slimane Dazi. D'ailleurs, Reda Kateb et Slimane Dazi, on les retrouve dans Un Prophète, ils ont joué ensemble dans le film de Jacques Audiard. Et Pigalle, bien sûr. Et bien, La Rumeur, ils sont avec nous jusqu'à 18h. Et leur film est donc en salle mercredi.
Vamos todos a bailar. escupe.
Cheche con leche.
Qué bueno es.
Cheche con pizza.
Muerto en la risa.
Con pizza langa.
Ahí viene la malanga.
Caca chilanga.
Viene de Catanga.
Adere.
Adere, tú lo ves.
Cheche con leche.
Qué bueno es.
Cheche con pizza.
Muerto en la risa.
Con pizza langa.
Colonne, Cheche Collé, c'est ça, Djoubaka, c'est vous qui avez programmé.
De 1969, parce que j'ai parlé du Bronx, et donc il y a beaucoup de Portoricains dans le Bronx à un moment, et ils amènent la salsa à New York, et c'était en raccord avec ce que je vais dire tout à l'heure, Willie Colonne.
D'accord, Djoubaka qui nous parlera d'une BD sur l'histoire du hip-hop, sa naissance aux États-Unis. Nous sommes en compagnie de Ekwe et de Amé du groupe La Rumeur, qui sont aujourd'hui réalisateurs de cinéma. Car leur film Les Derniers Parisiens sort en salle mercredi, quand des rappeurs s'emparent du 7e art. Voilà, voilà ce que ça donne. Enfin, vous verrez mercredi.
Ah ben oui, moi j'ai déjà vu. Allez-y.
Allez, la formation traitée avec souplesse, mais toujours avec rigueur dans la blague, c'est maintenant.
Ce que je veux, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que c'est notre projet.
C'est notre projet. Et on commence par les titres.
Présidentielle, moins d'un Français sur deux, c'est déjà pour quel candidat il votera.
Oui, c'est pas étonnant dans la mesure où même François Bayrou ne sait pas encore s'il va se présenter.
Violence policière, Franck Ribéry a rendu visite à Théo et lui a offert un maillot dédicacé.
Oui, après ils ont un peu parlé cicatrices.
Et donc j'imagine qu'il y aura des brèves.
Oui, je vous garde la surprise, mais il y en aura.
Marine Le Pen est actuellement au Liban, où elle était tout sourire, car elle a enfin réussi à rencontrer un chef d'État.
Mais oui, donc visiblement, les Arabes, elles les aiment bien quand ils sont chez eux.
Jean-Luc Mélenchon a été très clair, oui. Lui, il n'y aura pas d'alliance avec Benoît Hamon.
Oui, Mélenchon, la seule synthèse qu'il accepte, c'est l'image de synthèse.
Brillant jeu de mots.
Oui, bah, attendez le suivant, parce qu'il n'est pas mal non plus.
En revanche, Yannick Jadot devrait se rallier à Benoît Hamon.
Oui, comme quoi le verre n'est pas toujours solitaire.
Ça valait la peine. Voilà, ça valait la peine.
Pardon. Mais c'est le retour de vacances, je suis désolé. D'ailleurs, nous, on n'était pas là la semaine dernière, mais Patrick Cohen était là et il a reçu François Baroin.
François Baroin est-il encore en situation de gagner la présidentielle et à quelles conditions? François Fillon. Ma question s'adresse à François Baroin.
Patrick avait un peu anticipé. Bon, il s'y est reconcentré. Suite de l'interview.
L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ça sert à quoi, François Fillon?
Alors, si vous pouvez appeler François Baroin, c'est bien aussi.
Oui, bon, c'était retour de vacances de Patoche. Il a fait ce qu'il a pu.
Donc François Fillon réoriente sa campagne, c'est comme ça que vous le comprenez, François Baroin?
Voilà, il y a un moment, il s'est dit, je vais m'en choisir un au milieu, comme ça, ça va aller mieux. Voilà, il confond facilement le réserviste avec le titulaire.
Police à présent, depuis l'interpellation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois, plusieurs personnalités politiques se prononcent pour le rétablissement de la police de proximité.
Oui, enfin, tout en gardant une proximité,
relative.
Voilà, relative. C'est ça. International.
Ce week-end, Donald Trump a évoqué un attentat en Suède lors d'un discours, attentat qui n'a jamais eu lieu. Alors, pour se justifier, il a expliqué qu'il avait vu l'info sur Fox News.
Oui, si ça se trouve, il ne croit pas au réchauffement climatique parce qu'il a vu la Reine des Neiges. Et il se dit, c'est bon, ça ne doit pas aller.
Une vente aux enchères à présent. Le téléphone rouge d'Hitler a été vendu hier pour $243,000.
$243,000, c'est officiel. Il existe un téléphone plus cher que l'iPhone 7. Et c'était pas prévisible.
La maison de vente américaine a refusé de donner des informations sur l'identité ou même la nationalité de l'acheteur, dont on sait juste qu'il a suivi les enchères par téléphone.
Le con, il en avait déjà un.
Le téléphone.
Ben oui.
Oui, oui. À Lyon, le cardinal Barbarin a démis un prêtre de ses fonctions. Le prêtre avait indiqué qu'il envisageait de construire une relation avec une femme.
Oui, on suppose qu'il l'a congédié parce qu'elle était trop âgée.
Allez, votre école de brève.
Ah, il y a de la brève. Oui, et la semaine dernière, c'était la fête des amoureux. Et en Seine-et-Marne, ce titre, Saint-Valentin, il l'invite au restaurant, part sans payer, elle finit en garde à vue.
Ah oui, d'une certaine manière, il lui a offert des bracelets.
Oui, c'est un bon jeu de mots. Vous méritez une petite brève encore, Charente. Il tire sur son fils de 14 ans pour le calmer.
Oui, ça se fait pas, ça.
Bah oui, mais il était bien calmé, je peux vous dire, le gamin.
Ouais. Il y a eu un procès ?
Oui, il y a eu un procès, et à l'audience, le père s'est justifié en disant « Je ne voulais pas le tuer, mon fils, je n'en ai qu'un. »
Ah, c'est l'équipe de François Fillon qui a écrit ses arguments de défense.
Je pense que oui. Allez, la dernière. Cholet, il se masturbe au cinéma à côté d'un couple de gendarmes.
Ah, pas de chance.
Ben non, Astic et sa matraque dans ces conditions, c'est de la provocation.
Vous êtes sur France Inter. Ouais. Nous sommes en compagnie de Ekwe et Amé de La Rumeur qui réalise Les Derniers Parisiens au cinéma mercredi. Et avec vous, on va balayer ces trois sujets d'actualité. Le premier, c'est ce week-end des Français qui sont descendus dans la rue pour réclamer justice pour Théo, justice pour Adama Traoré et crier leur indignation face aux violences policières. Alors peut-être déjà que les policiers peuvent commencer par régler leurs problèmes entre eux. Astuce, ça va déjà nous faire du travail.
Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel.
Enculé de ta race!
J'adore les duels inoffensifs.
Extrait de la classe américaine. Alors, on va écouter tout à l'heure avec Chewbacca, un de vos titres, La Rumeur, que pas de justice, pas de paix. C'est ce qu'ont clamé les manifestants à Paris et dans toute la France samedi. À Aulnay, les habitants disent que si Théo n'avait pas subi de viol, on n'aurait peut-être pas pris la mesure des violences policières qui sont le quotidien des quartiers, disent les gens. Pourquoi c'est si difficile de faire savoir ça, qu'on redécouvre encore la poudre une fois de plus? Parce qu'on se retrouve face à l'État. Et donc face à l'État, on est coincé, on n'est pas crédible. Pourquoi est-ce qu'il a fallu le viol de Théo pour que ce sujet revienne sur la table?
Oui, mais... c'est accablant. C'est un problème massif et qui concerne plus que certaines franges de la population à la marge. Mais c'est quelque chose de un problème, une question dont il faut s'emparer. C'est une question de salubrité publique.
Ça fait des années que vous.
Vous citiez le morceau ça, ouais. Pas justice, pas de paix. Mmh. Je crois, je dois l'avoir écrit en 97. Vous voyez, il y a 20 ans, les choses étaient déjà extrêmement dégradées. C'est pire aujourd'hui.
Qu'est-ce qui avait déclenché ce titre? On va l'entendre tout à l'heure.
Bah, c'est exactement ce qui s'est produit sous nos yeux ces dernières semaines. Mmh. Et donc, c'est même pire parce que l'agression, le viol de Théo s'est passé sur la voie publique. Mmh. C'est plus des violences en réunion. C'est un acte de torture et de barbarie, quoi. Vous savez, il y a des gens qui ont du pouvoir, qui peuvent manifestement tout se permettre, et puis d'autres qui n'en ont pas, et envers lesquels on peut tout se permettre. Mais ce qui est de nature à entretenir la colère, c'est le sentiment d'impunité manifeste qu'on perçoit déjà dans les signaux que l'IGPN envoie, dans l'euphémisation des termes. On parle de violence, d'accident, mmh, voilà. Ouais. Donc
ça ajoute de la douleur à la douleur. Ça.
Bah, la police, c'est un outil. On est tous d'accord qu'une collectivité a besoin de règles et de garde-fous pour les faire respecter. Hein. Ça, c'est un outil qui obéit à une hiérarchie politique. Et il y a un usage politique de la police. Il y a des missions qui sont conférées à la police. C'est ça qu'il faut mettre en question, qu'il faut mettre en débat. S'agit-il à certains endroits de nos villes d'assurer la sécurité des citoyens et à d'autres endroits d'être dans une posture de défiance et d'ajouter de l'insécurité au quotidien des plus précaires? Voilà, c'est une question qu'il faut, je pense, poser en ces termes-là. Et réintroduire de la police de proximité, introduire les récépissés, pour moi, ça, c'est des questions cosmétiques, c'est des mesures qui sont pas à la hauteur du chantier.
En 20 ans, justement, depuis votre chanson, est-ce que vous avez l'impression que la cohabitation entre les jeunes et les policiers a évolué?
Donc notre procès, surtout. Hein,
c'est pour ça que vous avez été attaqué.
Pour ces questions-là, ouais, qu'on a été attaqué.
Précisément.
8 ans de procès, 2 cours de cassation, ça s'est jamais vu depuis la promulgation du droit de la presse au 19e siècle. Donc cette histoire de procès pour diffamation publique envers la police nationale et Nicolas Sarkozy inscrit de fait quelque part le groupe presque dans l'histoire de France.
Ah, moi, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé considérablement. On pensait avoir touché le fond en 2005. On s'attendait à ce que l'intelligence des hommes et des femmes qui sont censés nous représenter et diriger ce pays aurait pu faire œuvre, aurait pu nous garantir certaines améliorations, ou du moins, et c'est pas du tout le cas, quoi. Donc oui, c'est accablant, c'est très amer, et il faut se battre, voilà, comme toujours, l'égalité, le droit, la justice, l'égalité des droits, ça a un sens dans notre pays, et il faut le faire valoir, et les gens qui ont manifesté ce week-end ont parfaitement raison de le faire, et voilà, il faut les soutenir, ça nous concerne tous autant qu'on est, quoi.
Vous savez, la rumeur, on a 20 ans aujourd'hui de carrière aujourd'hui, et précisément, je veux dire, nous, on est vraiment attachés aux gens. C'est d'ailleurs tout l'objet des derniers Parisiens, c'est voilà, filmer des gens dans leur complexité, dans leur quotidien, et des gens qui ont de nature finalement à être à porter sur leurs modestes épaules, voilà, tous les déterministes, toutes les pesanteurs finalement économiques, idéologiques, politiques quelque part sur leurs humbles épaules, et qui essayent tant bien que mal quelque part, voilà, de vivre avec ça au milieu de tout ça, quoi. Et aujourd'hui quelque part c'est faire œuvre de salubrité publique. On a besoin de ce genre de regard. Voilà, on a besoin de comprendre. Nous, on aurait très bien pu faire, par exemple, dans le cadre de ce film, un film de vengeance, ou je veux dire avec des flingues et des gunfights. C'est pas le propos. C'est que la situation, elle est complexe. Donnons finalement des variables d'explication aux gens. Permettons quelque part d'en sortir avec un débat sain. Sinon, on sait pas où on va.
C'est le mot comprendre.
C'est comprendre et c'est faire partie de la solution. Je pense que les derniers Parisiens, enfin, que ce qu'on porte fait partie de la solution.
Et puis ce que vous faites, Ekwe et Amé, et en chanson et en film maintenant, c'est aussi porter ces paroles en chanson. Ça fait longtemps, 20 ans maintenant, la rumeur. Et on va en parler par un détour avec une bande dessinée, Djoubaka.
Oui, y a quelque chose qui fait vraiment fantasmer en fait un vrai amateur de musique, c'est la naissance d'un mouvement musical. Car si par chance on a été là, c'est-à-dire la première fois où se crée une esthétique, un son, une façon de dire des textes, si par chance on a été au bon endroit, au bon moment, on devient pas seulement le témoin en fait de l'émanation d'une nouvelle culture, mais on devient aussi un acteur de cette culture par le simple fait d'être là, quoi. Et en ce qui concerne l'histoire du hip-hop, la tâche de raconter les débuts en fait de ce mouvement est complètement ardue, quoi. Il est tellement facile d'oublier une date, quelqu'un, un témoin clé. Et afin de pas mourir idiot, hein, pour certains ici que je dis, voire même de briller en salon, je vous recommande donc très chaleureusement la lecture de Hip-Hop Fanimitri aux éditions Papa Dengue. C'est une bande dessinée de Ed Piskor, dont le premier tome nous plonge en fait dans le New York des années 70. Il commence très très tôt, avec les balbutiements de ce qu'allait devenir les fondements du hip-hop, c'est-à-dire une culture qui rassemble sous une même bannière, hein, le rap, le DJing, la danse, le breakdancing, le graffiti et le beatboxing. Et le livre de Piskor a cette force, comme dans les grandes biographies américaines, de chercher vraiment les petites bêtes, hein, de faire intervenir quasiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette histoire. Et ce qui est frappant, plus de 40 ans après la naissance de cette révolution musicale et culturelle dans le Bronx, c'est le raz-de-marée culturel qui va en émerger et à quel point il est présent dans nos vies de tous les jours. Alors que tout a commencé dans un quartier de New York où on n'aurait pas donné un copec aux habitants du coin. Et ça, c'est hyper important. Donc au départ, il y a un DJ qui s'appelle Kool Herc, et qui va jouer sur deux platines différentes et inventer en fait un système qui lui permet de jouer deux disques en même temps, et donc d'avoir la musique jusqu'à l'infini, et d'enchaîner d'entre ces morceaux un morceau instrumental qui va permettre en fait de donner naissance à une musique. Il est d'origine jamaïcaine. En Jamaïque, on a les sound systems, on a le MC qui est très présent, mais Kool Herc est tellement attaché à son travail qu'il va donner le micro donc au maître de cérémonie, qui lui va devenir le rappeur. Et donc c'est tout dans cette histoire qu'on rentre vraiment. Et puis il y a l'arrivée de personnages incroyables, doué d'une intelligence de terrain, vraiment d'une intelligence de rue, comme Afrika Bambaataa, qui est un ancien chef de gang des Black Spade et qui, suite à la mort d'un proche, va changer la situation de violence en fait en proposant que les défis deviennent artistiques et qu'on oublie les coups de latte. C'est la naissance de la Zulu Nation, qui est une organisation pacifique et qui va promouvoir ce qui va devenir les différentes disciplines du hip-hop. C'est aussi l'explosion du graffiti qui va se faire bouffer bien des années plus tard par le marché de l'art, hein, au point d'y perdre son âme. Je pourrais y passer 10 heures là-dessus. La BD de Piscore est une construction hyper classique, comme un gaufrier un peu franco-belge. Et il introduit dans un rythme de lecture, en fait, dans ce bouquin, où chaque personnage, comme dans un cadavre esquis, donne la parole et du sens à celui qui va suivre. Alors là, nous sommes au premier tome, aux prémices, à l'accouchement de cette culture, et le côté politique n'est pas encore très présent, mais on sent que ça pousse hein, au portillon. Sauf que pacifisme aussi, c'est un mouvement politique. Moi, bref, on en reviendra. Avant que des groupes comme Public Enemy en fait prennent la parole, il faudra attendre quelques années, parce qu'il y a un moment où le rap, US et français, va devenir vraiment le CNN de la rue, c'est-à-dire une source d'information qui dérange, qui raconte une réalité que certains médias et politiques préfèrent cacher ou ne comprennent pas du tout. Et la rumeur en sait quelque chose, puisqu'ils viennent de le dire, ils ont eu leur procès avec Nicolas Sarkozy pendant 8 ans, et les chansons ont parfois un pouvoir sur le temps qui est étonnant, surtout quand les situations ne changent pas. Et voici donc Pas de justice, pas de paix, dont on parlait, qui avait été enregistré en 99 et écrit 2 ans auparavant.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau paquet de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres. Ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares. Des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Ni les barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées, ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre, gonflés de noir et de propre, ni les horizons barrés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds des portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches, usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, et le brasier crépite, et le brasier crépite, et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
La rumeur, pas de justice, pas de paix, c'est ce qui est devenu un slogan aujourd'hui, qu'on a encore entendu ce week-end pour réclamer justice pour Théo, pour Adama Traoré aussi. Et vous dites au début du titre, les cadavres que la police ne veut pas voir, c'est ni plus ni moins ce que vous aviez écrit dans le pamphlet qui vous a valu 8 ans de bras de fer avec Nicolas Sarkozy. Et quand on voit avec le recul,
à l'époque,
vous aviez raison.
À l'époque, il était question de l'affaire Abdelkader Bouziane, il était question de l'affaire Macomé, quand on devait avoir une vingtaine d'années à cette époque. Youssef Kaïf, Aïs Aïch, très nombreux, il y a eu comme ça une saison très meurtrière. Et oui, donc 10 ans plus tard, voilà, on est les mêmes choses sont produites. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on bégait comme ça des un scénario depuis des décennies, et il faut que ça cesse, il faut que je veux dire qu'une génération s'empare. S'empare de cette question-là, si on souhaite vivre dans le calme et la paix.
Et être dans ensemble, l'action, quoi. On va en reparler avec vous, Ekwe Ehame, qui pour l'heure est réalisateur du film Les Derniers Parisiens, en salle mercredi, avec Reda Kateb, Mélanie Laurent, avec Slimane Dazy et tous vos potes de Pigalle, immersion dans Pigalle, sous votre regard à vous, Ekwe Ehame. Vous êtes sur France Inter, avec toute l'équipe, en direct, et avec Guillaume Meurice à vos côtés.
Oui, et ben moi je suis allé à la rencontre des derniers valeureux guerriers qui tractent encore et toujours pour François Fillon. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais quel panache, mes amis. Alors, ils sont plus proches de Don Quichotte que de Cyrano de Bergerac, mais ils sont toujours là, c'est vraiment les derniers résistants. Et j'étais avec eux, donc en pleine bataille, hier matin, sur un marché du 15e arrondissement de Paris. Et j'ai rencontré d'abord un ancien combattant.
Je suis dans la politique depuis mon général.
Depuis quoi ?
Depuis mon général.
Le fameux général.
Le général de Gaulle.
Et alors Fillon, il disait, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen ?
Oui, non, mais ça c'est... Écoutez, il y a le discours et Descartes, je pense, hein, la méthode. Hein.
Alors attendez, il y a le discours et le discours de la méthode de Descartes ?
Oui. Bon, non, faisons parler, j'anticipe. Ça, c'est un jeu de mots.
Oui, d'accord, c'est un jeu de mots. Oui, on peut être résistant et aimer les jeux de mots. Hein. Stéphane Hessel, c'était pas le dernier à faire des blagues sur ses dessous de bras. Hein. Oui, il y a des carrières dans des cabarets qui se perdent, je vous le dis. Alors, ce combattant, non seulement... Il se prenait pour Jean Amadou, mais pas seulement.
J'accuse, je suis un Zola du XXe siècle, j'accuse les socialistes.
Alors attention, parce qu'on est au XXIe siècle là.
Non, on n'est pas encore. En l'an 2100, on sera au XXe siècle.
Ah là, vous pensez qu'on est encore au XXe siècle?
Non, enfin, mais, c'est en 2010, hein, c'est le XXe siècle. Quand j'arrive au 21, moi je suis mathématicien.
Là. Ah oui, oui, oui. Mathématicien, oui. Sûrement celui qui a raconté les voix de la primaire de la gauche. Il est quand même plus proche de Cambadélis que de Zola. Mais bon, il y avait également des jeunes combattants, hein, bien sûr. Comment ils vivent cette bataille ?
Les gens viennent nous soutenir, nous disent qu'on est courageux, qu'ils nous soutiennent, qu'ils sont là pour nous. Et vraiment, ça donne encore plus la pêche.
Attention, la pêche, c'est Alain Juppé.
Je sais, mais c'est pas grave. C'est... Juppé n'a pas mis, comment dire, le brevet sur la pêche.
C'est vrai. Hein. Juppé n'est pas le Monsanto de l'expression des années 80. Sinon, Hippolyte serait taxé à chaque fois qu'il dit tranquillou bilou. Il y avait également, bien sûr, il y avait des combattantes hein, également hier matin, dont une qui dénonce une véritable opération des socialistes.
C'est une opération, oui, bien sûr, parce qu'il est trop bon.
François Fillon est trop bon ?
Oui.
Comment vous savez ça ?
Parce qu'on soutient François Fillon.
Oui, c'est un argument qui se tient. Hein. Pourquoi il est bon ? Parce qu'on le soutient. Un argument qui n'est pas sans rappeler celui du responsable de la centrale de Tchernobyl, hein, quand il parlait nucléaire soviétique. Alors, on n'en a pas fini, attention, avec les bons arguments. Écoutez celui-ci.
Un type qui est un sportif automobile est un type qui a des réflexes pour pouvoir conduire, même l'État.
Mais il peut faire des dérapages aussi.
S'ils sont contrôlés.
Ouais. Ah ben là, il est contrôlé en ce moment, mais plutôt par le parquet financier.
Oui.
Et de toute façon, ils vont rien trouver, je vous le dis, le parquet financier. Et pour cause, il n'y a rien à trouver, puisqu'il n'y a pas un signe de boulot de Pénélope, il n'y a rien, il y a Walou, même pas la trace d'un mail envoyé ou reçu. Mais pour ça, ce combattant, il a une explication.
Oh, ça se paume, les mails, vous savez.
Ce seraient les mails qui auraient été perdus.
Moi, je passe ma journée sur la toile, et je sais que quelquefois, j'ai des mails que je ne reçois pas, et d'autres qui se paument dans la nature, sans qu'on sache vraiment pourquoi.
Ah, saloperie de mails hein, qui se perdent. Hein. Alex, vous le savez mieux que personne. Bah, oui. Hein, pourquoi les nanas que vous contactez ne vous répondent pas ? C'est les mails qui se perdent. Hein, Microsoft est en train de nous créer une belle génération de branleurs, hein, dans les deux sens du terme, évidemment. Alors après, il y a des choses qui ne se perdent pas, qui sont même enregistrées, notamment quand François Fillon disait que s'il était mis en examen, il serait pas candidat. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, j'en ai parlé à Philippe Goujon, c'est le député maire du 15e qui était là hier matin, parce qu'on a quand même l'impression que Fillon, il avait dit cette phrase simplement en pensant à Sarkozy, hein, n'est-ce pas, Philippe ?
En disant quoi ?
En disant qu'il avait dit cette phrase un peu pour emmerder Sarkozy et que maintenant, ça lui retombe un peu sur le coin du bec.
Bah, écoutez, il a dit cette phrase pour concerner toute la sphère politique. Lui-même d'ailleurs, mais bon, voilà.
Oui, du coup, là, c'est foutu maintenant, c'est mis en examen.
Ça, mais bon, vous savez, dans les campagnes électorales, il y a parfois des phrases qui peuvent ensuite être sorties de leur contexte, retournées contre leurs auteurs, ça.
Ouais, la question du contexte, hein, plus de con que du texte, à mon avis. Mais bon, on leur en veut pas, hein, à la guerre, tu fais tout pour sauver ta peau, c'est comme quand un bateau coule. D'ailleurs, pour conclure, j'avais une dernière métaphore pour Philippe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu comme les musiciens du Titanic, qui continuent à jouer pendant que Titanic.
Oui, j'ai vraiment pas cette impression du tout. On a le sentiment que, d'abord, les électeurs de droite prennent conscience.
On a l'impression que vous jouez du pipeau quand même, parfois.
Non, je suis pas musicien. Pourtant, j'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas assez calé.
Bon, ben on verra si les électeurs sont assez calés en musique militaire ou pas. Parce qu'entre ça et la machine à perdre qui est enclenchée à gauche, c'est toute la France qui risque malheureusement de monter au front, mais national.
Merci Guillaume Meurice. Je pense que les résistants fionnistes dans la rue ont beaucoup fait marrer Koué et Amé, non ? Ils sont magiques. Hein.
Non, la chronique a été brillante.
Merci beaucoup.
C'est cruel.
Grâce à eux, c'est cruel.
Bravo Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter, on va aborder ce deuxième sujet avant la chronique d'Hippolyte Girardot, que tout le monde attend, bien sûr, car Chewbacca a déjà fait son petit devoir. Sujet 2, est-ce qu'aujourd'hui, le seul horizon qui s'offre aux jeunes, c'est de pouvoir acheter le dernier iPhone? Où est l'espérance si elle n'est plus dans la politique? Si elle était à gauche, avec son idéologie d'égalité et de progrès, a-t-elle basculé à droite? Et alors, est-ce que l'espérance, ce serait de revenir dans le passé? Bref, la jeunesse cherche son horizon.
On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Extrait du film Fight Club. Alors, où est passée l'espérance? C'est la une du journal Fakir, le journal de François Ruffin, qui est édité dans le Nord, mais je rappelle qu'il est disponible dans toute la France.
Partout.
C'est le numéro de février-mars de
sans
Fakir.
Sans publicité, sans subvention.
Voilà. où est passée l'espérance, donc? C'est d'abord un reproche qui est fait à la gauche. Est-ce que, selon vous, c'est la gauche qui promettait l'espérance?
Ouais, ils ont largement fait leur beurre là-dessus. Hein.
C'est un fonds de commerce.
On devrait créer une taxe sur l'espérance.
Et,
pour tous les responsables de gauche qui ont mené campagne sur ces thématiques. Mmh. Bah si, ouais, c'est où est passé le rêve collectif. C'est chacun sa gueule aujourd'hui. C'est atomisé. Il y a une confusion politique. Les transmissions aussi. Ce que vous disiez est à peine exagéré, hein, le seul horizon qui est offert à la jeunesse, c'est quel iPhone ou quel bien va-t-on pouvoir se procurer, mais là, et c'est extrêmement cynique et froid comme du ciment, quoi.
Mais alors, pour se créer un horizon, est-ce que l'action, est-ce qu'on peut se créer un horizon en attendant que ça arrive tout cuit dans la bouche, ou il faut se créer un horizon écoué, vous avez?
Bah après, nous, à notre humble échelle, bah voilà, ça a commencé par la musique, et puis aussi on était des acteurs et des animateurs sociaux. On a travaillé dans on a fait énormément d'ateliers d'écriture dans beaucoup de quartiers de France, et puis aussi en prison. On a été très actifs aussi. Puis après, voilà, partout on a eu l'opportunité finalement de s'exprimer sur des supports à travers nos disques. Ça a été d'aller les défendre, on va dire, sur scène. Donc c'est-à-dire un rapport dépourvu finalement de tout strat, de toute, je veux dire, voilà. Et puis avec ce film, c'est vraiment
les derniers Parisiens qui sortent en salle mercredi,
la caméra, et prendre le pouls des gens tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils sont devenus, et essayer finalement d'avoir un point de vue, en tout cas qui sort, on va dire, des chapelles musiciens, rap, pas rap, voilà, et vraiment essayer de s'adresser
Mais est-ce que vous êtes encore connecté avec cette jeunesse-là? Parce que c'est le propos du film. Vous êtes plutôt de la génération du personnage le plus âgé.
Absolument, ouais.
Qui lâche la connexion avec son petit frère.
Ouais, on l'est, par la musique, essentiellement, mais aussi quelque part, par nos concerts, par nos rencontres, parce qu'on a des cousins, on a également des enfants,
Donc vous lâchez pas le lien, quoi.
Non, on lâche pas le lien. Autant avec la génération finalement nous a précédés et la génération d'en dessous, c'est important. De toute façon, créer du lien à travers une œuvre, c'est en ça quelque part, elle a une résonance poétique, elle est pertinente. C'était tout l'intérêt de ce film, justement, c'est de considérer que les derniers Parisiens, ça peut être aussi les dernières personnes. Tous les centres historiques finalement qui se débarrassent finalement de leur essence populaire au profit du fric et, je veux dire, des placements de produits et des puissances immobilières, ça existe à Nîmes, ça existe à Montpellier, ça existe à Lille où on y était récemment, ça existe à Toulouse, ça existe même à Tokyo, je veux dire, où on a été présenté le film. On a le sentiment que voilà, aujourd'hui il y a un monde qui est complètement en train de nous échapper. La référence du iPhone a été tout à fait juste. Il y a des gens qui s'achètent leur dignité aujourd'hui avec un iPhone, voilà, qui se montrent, je veux dire, dans des plages de rêve, alors qu'on sait que, je veux dire, la réalité en fin de mois, elle est extrêmement compliquée pour tout le monde. Donc c'est ça, en tout cas nous, c'est ça qu'on filme, C'est on a dédié cette œuvre justement pour ça. Et en ça, ça s'écarte complètement du discours politique qui nous voit. C'est-à-dire, c'est très bien représenté dans le cadre de votre chronique. Voilà, à travers des statistiques. Bon, on fait des trucs graves, mais bon, finalement,
c'est votre manière donc de faire de la politique et d'être en action et donc de créer finalement cette espérance qui nous manque tant.
Absolument.
Et je vous renvoie donc au numéro de Fakir avec cette interview de Jean Birenbaum, le directeur du Monde des Livres. À 17h48, en compagnie de Ekwe et Amé du groupe La Rumeur, il y a Hippolyte Girardot.
Oui, il y a Hippolyte Girardot qui a donc voulu faire un truc sérieux parce que l'actualité est vraiment trop drôle, donc je me fais avoir. Et bref, je me suis fait traiter de tonton l'autre fois par une femme très séduisante, intelligente, désirable, et surtout, bon, faut-il le préciser, beaucoup plus jeune que moi. Alors, évidemment, tôt ou tard, et on espère toujours le plus tard, on passe dans la catégorie de tonton. Le tonton est plutôt inoffensif, dingo, il fait rire en fin de repas, il joue au foot avec les gosses, il lance des vannes aux femmes, et des fois, ça dérape. C'est un peu le risque avec le tonton. Il est entre Bill Murray et Hannibal Lecter, en gros. Bon, faut l'accepter, et se dire que le beau mec, la belle nana qui respire la tonicité musculaire, eux aussi seront atteints du même destin. Et ouais, eux aussi, tonton et tata, tôt ou tard. Alors en politique, le tonton, évidemment, vous le savez, c'est Mitterrand. Il a réussi à passer du vorace challenger de De Gaulle en 65 au tranquille tonton de 98, soutenu par une jeunesse... 88, soutenu par une jeunesse soudain gérontophile. On dit que ce surnom lui a été donné par ses gardes du corps pour ne pas l'appeler le vieux. Alors, le publiciste de l'époque, le mec orange, il a lancé donc tonton pour que l'opposition ne le traite pas de papy. Le politologue de l'époque, Renaud, celui qui trouvait il y a quelques mois que Fillon était le bon cheval, avait écrit au moment de la mort du président tonton, vous avez pleuré comme moi en réalisant, allez, avouez que si vous aviez su que vous l'aimiez autant, vous l'auriez aimé davantage. Ah, c'est beau l'amour en politique. Alors on imagine mal ce genre de tendresse pour un de nos dirigeants d'aujourd'hui ou de demain, hélas. Parce qu'aujourd'hui on est vraiment face à des pères fouetteurs, des mères giflardes. Moi j'écoute les discours et je me sens face à un parent tyrannique qui nous dit « tiens-toi droit ». Mais le pire, c'est qu'il semble qu'il y a un nombre croissant de personnes prêtes à écouter ce discours et à y obéir, à se tenir droit. Cela me fait penser au test de Stanley Milgram. Au début des années 60, ce psychologue américain, chercheur à Yale, demande à des individus sélectionnés par petite annonce d'infliger des chocs électriques d'intensité croissante à d'autres individus, qui eux sont en fait des acteurs, qui ne reçoivent donc pas de chocs, qui font semblant, si ces individus échouent à retenir des mots. Le tout sous la supervision d'un pseudo-scientifique et donc en leur faisant croire qu'ils participent à une étude sur l'influence de la punition sur l'apprentissage. Eh bien, dans la variante la plus connue de l'expérience, 65% des individus allèrent jusqu'à la tension maximale et potentiellement mortelle de 450 volts. Obéir au protocole scientifique posait très peu de problèmes de conscience. On peut voir dans des vidéos le bon père de famille appuyer allègrement sur le bouton malgré les hurlements de celui à qui il infligeait ce choc électrique. Parce qu'il le faisait pour le bien de la science. Et à l'époque, dans les années 60, la science promettait la Lune, ce qu'elle a d'ailleurs réussi en 69, elle se vantait d'établir sur Terre la paix et la prospérité. L'idée de cette recherche sur l'obéissance était née du terrible constat de la Deuxième Guerre mondiale où un peuple entier avait obéi à Hitler et participé à la Shoah pour le bien de l'Allemagne. Les gens qui suivent Trump aujourd'hui, il y en a un paquet, le font pour le bien de l'Amérique. America first. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, on entend un tout petit peu cette musique-là en France. On est pour le bien d'une France forte, une France qui se ressente sur ses valeurs dont parlait Guillaume tout à l'heure. Pour le bien de la France. Cette France brandie, défendue par des politiques qui n'ont de cesse de montrer qu'ils savent lever le menton. Contre les journalistes, contre la justice, contre l'autre, contre celui qui pose des questions, celui qui demande la vérité, la justice, celui qui veut comprendre avant de condamner, contre celui qui n'obéit pas tout de suite. Un peu contre le tontonisme, un peu à la cool, le tonton qui nuance, voilà. Eh bien, juste avant 68, où le mot d'ordre était « désobéissez », en mars, on entendait ça à la radio.
Mais pas si, mais pas un, patata pour tout le cadet, à cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars, vous en faites pas les gars. moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé
voilà.
là. Et
j'en suis arrivé là, moi aussi.
Merci Hippolyte Girardot. Ça dénonce aujourd'hui, ça dénonce. Ouais. On était avec La Rumeur, avec Ekoué et Amé. On va rapidement survoler ce troisième sujet pour faire un peu léger. Les sauts en dehors, les faits dits alternatifs et les fake news de Trump. Restons en France où les policiers n'ont trouvé donc aucune trace du contrat de Pénélope Fillon, mais la trace de ses indemnités de licenciement. Alors est-ce une info du Gorafi ou est-ce la réalité? C'est un fait réel. L'actualité commence à être aussi caricaturale qu'il faut redoubler de vigilance. Et ça, ça commence dès le plus jeune âge, parce qu'imaginez un peu que le Gorafi se mêle de faire des faux manuels scolaires.
Ah, si on a parlé de la guerre, c'était stylé.
Alors, laquelle? Parce qu'il y en a eu beaucoup des guerres.
Ah, la 1445.
Il n'y a jamais eu de guerre 1445.
Non, là, c'est pas possible, Lucas. 1418, c'est la base, hein, c'est le B.A.B.A. C'est comme mai 68, 1789.
Ah, mai 68, oui, c'était avec les CRS, ils étaient à Paris plage avec les cheveux longs et tout, ils se balançaient du pavé. Et vous l'avez fait, vous?
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Lucas? Hein? T'as complètement décroché, là. Hein? Il n'y a plus de filet, on sait plus à quoi s'agripper.
Fais pas ci, fais pas ça. Alors, est-ce que vous regardez un petit peu ce que propose le Gorafi? Ça vous fait marrer, ça?
Oui, ça m'arrive. C'est très drôle.
Alors, il y a une chronique dans Libération aujourd'hui de Daniel Schneiderman qui explique la gorafisation du monde et qu'on sait de moins en moins quelle est la véritable info. Et on se demande, est-ce que c'est le Gorafi, pas le Gorafi? Il y a des journaux qui se font avoir. Cette frontière qui devient comme une feuille de papier à cigarette entre l'actualité et la blague, l'actualité qui devient une blague. Est-ce que ça cache quelque chose de grave, selon vous? Est-ce que
ça
peut vous amuser aussi?
Non, ça nous dit que le monde est devenu ubuesque, hein, et que ces titres, ces faux titres et ces faux articles deviennent crédibles. Donc... Voilà, on est en pleine farce. Bon, c'est parfois une farce macabre, mais il y a qu'à être dans le mimétisme, hein, et l'absurdité du monde. Voilà, c'est malheureusement pas souvent des fakes.
L'absurde appelle l'absurde.
Est-ce que c'est pas parce qu'on est plus informé qu'avant qu'on sait plus ces choses absurdes? Peut-être ça existait avant et on était juste pas informé, non?
Ouais, sans doute, ouais, sans doute.
Mais c'est pas nouveau, hein, je crois, ces détournements de l'actualité en l'exagérant. C'est pas nouveau, ça a existé, je crois. Je me souviens plus des titres, mais il me semble que il y a eu dans le passé comme ça des titres.
Ah oui, il y en a un de vous deux qui est sociologue des médias, si je me souviens bien. C'est vous, Amé, c'est ça? Il y a un politologue et un sociologue des médias, donc attention les gars. Ekoué et Amé.
On voit le système de défense de Fillon là.
C'est le Gorafi aussi. On a un rôle à vous proposer.
Mais oui, parce qu'on fait un sketch en fin d'émission. On s'est dit que ça vous plairait bien de jouer des policiers. Oui, si, mais alors pas dans n'importe quel quartier. Dans le 16e arrondissement, on inverse les rôles. Il y a un couple de vieux, Guillaume et Charline, qui font un peu d'importance. N'importe quoi, et c'est la perquisition.
On est dans les beaux quartiers, là. Ouh là là, mais est-ce que ce ne seraient pas des gens de la maréchaussée?
Bonjour, monsieur, madame, c'est à vous, Scanidé.
Charles-Henri, je pense que le gardien de la paix parle de Kiki, là.
Raf, raf.
Oui, faites bien le teckel, Alex.
Effectivement, oui, c'est à nous.
Votre Kiki a été surpris en train de déposer des défécations canines sur la chaussée.
Charles-Henri, je pense que l'argousin parle du caca de Kiki.
Oh.
Oui.
Je suis désolé, mais c'est tolérance zéro pour la propreté. Pourrais-je voir vos papiers, s'il vous plaît?
Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, tout ça?
Nous allons procéder à un contrôle d'identité, monsieur.
Oh, une pièce d'identité, pièce d'identité, mais moi, je peux vous donner carrément notre arbre généalogique, si vous voulez, notre famille. Elle est sans bleu depuis 12 générations, monsieur.
S'il vous plaît, ne faites pas d'histoire.
Ah, ça c'est pas un teckel, peut-être un chihuahua, Alex, c'est pas. Mais qu'est-ce que... Mais vous contrôlez au faciès, là?
Non, mais c'est vrai qu'on a déjà eu pas mal de soucis avec des gens dans votre genre.
Quoi? Parce que j'ai un sac Hermès.
Tiens, d'ailleurs, il est à vous, ce sac, madame?
Mais comment osez-vous? Mais bien sûr qu'il est à moi.
Putain, t'as vu, balèze la contrefaçon.
Mais Charles-Henri, interviens, voyons. Ces malotrus parlent de ton cadeau de Saint-Valentin, tout de même.
C'est intolérable, messieurs. Le vrai, il vaut 16 000 euros.
Mais c'est pas un vrai.
Si, le vendeur de Porte de la Chapelle, il me l'a confirmé. C'est un vrai.
Ah, messieurs, fait du shopping dans les beaux quartiers.
Allez, vole-moi votre sac.
Ça vaut.
Ah. Mais tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Un sachet de coke.
Charles-Henri, ils en ont après notre farine de l'épicerie bio.
Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main?
C'est ma canne.
Ah, une arme contondante.
Ça fait beaucoup là.
Nous allons devoir vous réclamer une amende de 80 euros.
80 euros bah ça va pour 80 euros. Vous nous enquiquinez comme ça, ça va.
Dites, on peut vous demander un récépissé?
C'est de la provoque. Allez bourgeois, suivez-nous au poste.
Oh, t'as entendu Charles-Henri, ces barbous nous ont traités de bourgeois.
Bon, vous savez, bourgeois, c'est comme racaille, hein, c'est à peu près convenable.
Ah non, c'est un Doberman plutôt.
Oh, c'est mon meilleur rôle.
Il y a un petit côté fantasmatique d'aller faire un contrôle aux faciès dans le 16e arrondissement de Paris.
Vous êtes pas à l'aise en flic, hein, on l'a senti quand même.
Écoutez, et
pas à l'aise tout court. Hein.
Ça, c'est pas
et pourtant, vous êtes d'excellents porte-parole, oui. Et ça faisait du bien d'entendre votre parole, Écoutez, Amé. On souhaite l'entendre encore beaucoup. Et
aller
voir au cinéma notamment, dans votre film, Les Derniers Parisiens, qui sera en salle mercredi, avec Reda Kateb, Mélanie Laurent, Slimane Dazi, tous vos potes de Pigalle et Pigalle, une véritable immersion. On vous remercie chaleureusement. La rumeur. Voici le mot de la fin, juste avant d'écouter International et tout ce qui se passe dans le monde avec Nicolas Dumorand. Surtout, n'oubliez pas ceci.
Allô, je te dis qu'il faut garder l'espoir, ma poule.